font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
Et on le retrouve avec grand plaisir, Christian Page. Bonne nouvelle saison, mon cher Christian.
Ben, pareillement pour toi, Bernard.
Ah, écoute, je sens qu'on ne va pas manquer de sujet.
On n'en manque jamais. C'est...
Non, mais ces temps-ci, honnêtement, là, avec les complotistes qui font la pluie et le beau temps.
Oui, d'ailleurs, c'est assez surprenant. J'en avais parlé dans une précédente chronique, mais les chiffres montrent qu'on est, la population ici au Québec, on est à presque 25 % de gens qui adhèrent aux théories du complot lorsqu'il est question du COVID-19.
Ah oui!
Et on parle presque d'une personne sur quatre. Et même si dans d'autres médias, on a tendance à amoindrir un peu cette nouvelle-là en disant, bon, ben, ça reste quand même marginal.
Ben, 25 %, ce n'est plus marginal.
Tu as tout à fait compris. Hein? Parce que quand on regarde généralement dans les théories du complot, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit on n'a pas été sur la Lune, le World Trade Center, l'assassinat de JFK, on parle généralement d'un pourcentage de population qui oscille entre 10 et 15.
Mais là, avec la COVID, on en serait à 25.
On en est à 25.
Donc, ils pensent que la COVID, c'est fabriqué par les gouvernements pour nous manipuler, là.
Voilà, que le virus a été créé dans un laboratoire, qu'il est lié à la 5G, que Bill Gates veut développer un vaccin pour mieux nous contrôler. Quelle que soit l'opinion que tu te fais sur le COVID-19, si elle est associée là, donc à une théorie du complot, ben tu fais partie de ce pourcentage d'une personne sur quatre. Ce qui, je l'avoue, moi personnellement, je trouve ça assez dérangeant qu'une personne sur quatre agissent, ou en tout cas adhèrent à des théories aussi loufoques.
Comment tu expliques ça? Ça fait pas partie des sujets que tu m'avais présentés, mais tu as toute une réflexion là-dessus. Prenons le temps quand même. Comment tu expliques ça?
En fait, dans un premier temps, il y a toujours les mêmes mécanismes. Hein. Les gens, et je pense que le fait du confinement a entraîné ce problème-là. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés chez eux, et là, ben, comme ils sont directement touchés, parce que généralement, les grandes théories du complot ne nous touchent pas directement. Le World Trade Center, à moins d'avoir des gens, des proches qui étaient dans le bâtiment ou que tu vives à New York, c'est quand même des choses qui sont un peu éloignées de nous. L'homme sur la Lune, ben, ça change pas grand-chose dans notre vie de tous les jours, là. Si on se dit, y a-tu été ou pas été. Mais le COVID-19 nous touche tous directement. Et là, les gens se retrouvent confinés dans la maison. Et pour beaucoup de gens, et c'est un mécanisme qu'on retrouve dans toutes les théories du complot, les gens ont besoin de trouver un responsable. Beaucoup de gens ne peuvent pas rester avec l'idée de « on le sait pas » ou « act of God », hein, c'est la volonté de Dieu. Donc, on a besoin d'un responsable. Et là, on se retrouve confiné chez soi, on s'adonne, on se retrouve sur les médias sociaux et on se laisse un peu embobiner dans toutes sortes de choses parce que on n'est pas tous virologues, on n'est pas omnipotents et omniscients. Donc, on va adhérer à des idées. Généralement, ce sont des idées qui nous plaisent. C'est ce qu'on appelle en psychologie populaire, hein, le biais de confirmation. Je crois qu'il y a un complot et je vais sur des sites complotistes qui confirment ce que je crois. Et tout ça est un peu, ça fait boule de neige et ça ne sert qu'à entretenir mon idéologie. Et là, ben, j'ai besoin de trouver un responsable. Et ces responsables, ils ont des noms, ils ont des figures. C'est Bill Gates, ce sont les laboratoires, ce sont les Chinois, ce sont les pharmaceutiques. Donc, j'arrive à trouver une explication à tout ça. Et c'est quand même très dérangeant qu'une personne sur quatre accepte ces idées qui, bien sûr, sont véhiculées sur les médias sociaux, mais sont véhiculées par des experts en tout et spécialistes en rien, bien souvent. Hein. Ce sont des gens qui sont comme, du jour au lendemain, deviennent des spécialistes des épidémies, deviennent des spécialistes des virus, et voilà, ils font toutes sortes de commentaires auxquels on va adhérer de manière plus ou moins soutenue.
Oui, puis il y en a qui sont très éloquents dans la manière avec laquelle ils présentent ces théories. Ils ont l'air de gens sérieux.
Très articulés. Oui,
sérieux,
très
articulés. Ils ont l'air de gens studieux. Ils parlent, tu sais, gravement. Puis là, ma foi, ils parlent avec une certaine autorité, pour ne pas dire une autorité certaine.
Oui, et ce qu'il faut retenir aussi, Bernard, dans ce genre de truc-là, c'est qu'il, dans n'importe quel domaine de la science où il y a des inconnus, hein, que ce soit en astronomie, en physique, en médecine, en n'importe quoi, il y a jamais 100%, il y a jamais un consensus à 100%. Il y a toujours des dissidences, hein, puis des dissidences dans les milieux scientifiques, là, que l'on parle du Big Bang, qu'on parle de l'évolution, qu'on parle de n'importe quoi. Il y a rarement un consensus à 100%. Et là, dans le cas du COVID-19, 1989, bien sûr, il y a de la dissidence. Mais avant d'adhérer à ces voix dissidentes, dans ce qu'on appelle le syndrome Galilée, c'est pas parce que tu es dissident, que tu es marginal, que tu as forcément raison. Hein, Galilée, c'est loin, c'était il y a 500 ans. Donc, généralement, c'est sûr que si on regarde l'ensemble de la communauté scientifique, on aura, par exemple, une adhésion à certaines affirmations scientifiques qui regroupent peut-être 95% de la communauté et un 5% de marginaux, de scientifiques, qui sont des gens instruits, éduqués, qui connaissent dans bien des cas le sujet, mais qui, pour des raisons X ou Y, n'adhèrent pas au reste de la communauté.
On le voit dans le cas des gaz à effet de serre, par exemple.
Voilà.
T'as des scientifiques qui sont dissidents sur cette question-là et qui deviennent les personnes de référence pour ceux et celles qui refusent de reconnaître le phénomène du réchauffement, par exemple.
Et il est justement là le danger. Hein? C'est-à-dire qu'on va donner les gens qui veulent croire aux théories du complot, tu as parlé des gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète, tout ça, c'est sûr qu'il y a des voix dissidentes. Ces gens-là sont pas nécessairement des individus, des imbéciles, mais pour X ou Y raison, oui. ils ont des réserves. Oui. Et malheureusement, dans les cas des théories du complot, on va donner beaucoup trop d'espace à ces individus marginaux plutôt qu'à la voix qui semble celle qui regroupe le plus de scientifiques.
La voix consensuelle.
Voilà. Et c'est un, il faut quand même se méfier de, il faut écouter ces gens-là, mais il faut faire attention avant d'adhérer à ça. Il faut regarder aussi ce que dit, comme tu le dis si bien, la voix consensuelle du reste de la communauté scientifique.
La communauté scientique. Mais il faut pas les ignorer. Je m'inquiète.
Oui.
Mais je pense qu'il faut en parler. Parce que de les ignorer puis de dire c'est toute une gang de coucous, tu règles rien. Là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu reconnaisses qu'il y a un courant dissident. Puis il faut voir un peu comment on en arrive là. Si on veut éventuellement les ramener, ben je pense qu'il faut en parler.
Il faut
reconnaître leur existence. Puis il faut pas trop. Moi des fois, le mépris là. C'est pas une façon de rallier quelqu'un, c'est pas une façon de convaincre quelqu'un. Ouais. À un moment donné, il faut faire attention aussi de pas.
Oui, on en a déjà parlé aussi, Bernard, ensemble. C'est-à-dire que les médias ont tendance à dire dès qu'il y a une voix qui est un peu dissidente, elle devient la théorie du complot. Mais faut faire attention, c'est pas toujours le cas. Par exemple, et on en a parlé ensemble, là, des gens qui vont dire je crois que le virus a peut-être échappé à des scientifiques qui travaillaient dans un laboratoire en Chine.
Oui.
C'est sûr que c'est pas l'hypothèse qui domine le milieu scientifique. On croit plutôt qu'il vient du milieu animalier, mais en soi, le fait d'imaginer que le virus a pu échapper à des laborantins ne fait pas de soi un théoricien du complot.
Ben non,
c'est pas parce que tu adhères à ça que tu es un théoricien du complot.
Ben non, mais Luc Lavoie, là, qui est quand même mon coéquipier dans cette émission, il l'a évoqué très, très, très rapidement, lui, au tout début de la pandémie, que cette hypothèse, là, qu'il y a un grand laboratoire à Wuhan, microbiologique, non, bactériologique, qui enquête sur ces choses-là, qui travaille. Et donc, il a évoqué cette hypothèse, puis Luc n'est pas du tout dans la théorie du complot.
Non, je me rappelle avoir discuté avec lui cette question-là en coulisses. Mm-hmm. C'est vrai qu'à Wuhan, il y a un laboratoire qu'on dit de type 4. Donc, ce sont les laboratoires, c'est le grade le plus haut, ce qui autorise donc les scientifiques qui travaillent dans ce laboratoire à travailler, à manipuler les virus les plus dangereux, hein, comme la variole, par exemple, qui techniquement n'existe plus sur Terre, mais on l'a quand même dans une fiole, hein, on a quand même isolé ce virus-là de la variole. Donc, ces gens-là, dans un laboratoire de type 4, ils ont l'habilité de pouvoir travailler, d'étudier ces virus. Est-ce qu'il est impossible que des gens aient travaillé sur une souche du virus COVID-19 et que l'un d'entre eux aurait pu être infecté ou d'une manière X ou Y, le virus aurait échappé au laboratoire, ce n'est pas une théorie du complot. C'est peu probable. Hein? Insistons là-dessus. C'est peu probable, mais c'est pas impossible.
Oui, voilà.
Donc,
exactement.
Donc si tu adhères à ça, ça ne fait pas de toi un théoricien du complot.
Voilà, voilà.
Donc, il faut se méfier un peu. L'idée de la théorie du complot est souvent une étiquette qui est facile à appliquer.
Pour faire taire la dissidence, justement.
Voilà. Écouter le discours.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, écoute, tu nous avais préparé quelque chose de très intéressant à propos de Monsieur Trump. Monsieur Trump, dans une entrevue à CNN, à Lou Dobbs, qui a été longtemps à en fait, c'est, il est maintenant à Fox, une entrevue à Fox, mais Lou Dobbs a été longtemps à CNN. Et là, voilà. Il a fait une promesse électorale. Étais-tu capable de me renverser ça en 3 minutes? C'est ce qui nous reste, mon cher.
Oui,
ami.
En fait, ce qui revient là-dedans, c'est qu'au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé de la question des ovnis et on en a parlé un peu en plein dans ce milieu de la campagne présidentielle. Donc, Lou Dobbs, comme tu l'as mentionné, il est à Fox. Il est surtout connu pour son critique économique. Et il y a quelque temps, bon, il y a une semaine, il recevait de Donald Trump. Ils se sont mis à discuter ensemble. Et à la toute fin, Dobbs dit à Trump, il dit, dites-nous, il y a beaucoup de gens autour de moi qui se questionnent sur la question des ovnis. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et là, un peu en badinant, Trump dit, ben, vous savez, vous êtes peut-être les plus grands spécialistes des ovnis que je le suis, là, en référant à Dobbs ou au milieu des journalistes. Et il dit, bon, en ce qui me concerne, je vais faire ce que vous me demandez. Si vous voulez la transparence, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est amusant de voir que... Bon, c'est un peu la façon de Trump de badiner pour essayer d'aller chercher un lectorat, tu comprends? Les gens qui s'intéressent aux ovnis, c'est-à-dire, oh, voilà, Donald Trump va rendre public les dossiers sur les ovnis. Mais ce qui est amusant, Bernard, c'est que tout ça arrive dans un contexte qui est très particulier parce que vendredi dernier, et là, on ne rit plus, là, c'est pas une jambette du président Trump. Vendredi dernier, le département de la Défense a émis un communiqué en disant que maintenant c'était officiel. On le sait depuis 2017. On a beaucoup parlé de ces observations d'OVNI, ces films. On en a parlé ensemble, ces films qui circulaient sur le web, qui avaient été filmés par des pilotes. Ben voilà que vendredi dernier, le département de la Défense a annoncé qu'il créait ce qu'il a appelé le Unidentified Aerial Phenomena Task Force, hein, la force d'intervention sur les phénomènes aériens non identifiés. Donc c'est fait, c'est officiellement créé au département de la Défense, ce sera géré par la US Navy. Et tu comprends que c'est un peu une réaction des autorités militaires justement à toutes ces fuites qui, depuis maintenant 2 ans, depuis une révélation du New York Times, s'est continuellement retrouvée dans l'actualité. Et là, ben, je pense que le département de la Défense a voulu faire taire ces rumeurs-là.
Christian, on veut le savoir. On les a vus. Je les ai vus, les bandes vidéo. Ils sont disponibles. C'est des pilotes, là. C'est des pilotes, là, tout à fait crédibles, rationnels.
Chevronnés.
Dans certains cas, ils sont deux à observer la même chose. Et puis, on les voit sur les images. Moi, honnêtement, j'aimerais ça savoir, c'était quoi ces objets-là?
Voilà. Et le département de la Défense, c'est exactement ce qu'il a dit. Il ne favorise pas l'idée des visites extraterrestres. Ce qu'il veut savoir, c'est quelle est la nature de ces objets et, qui plus est, si ces objets proviennent de nations qui sont ennemies des États-Unis et sous-entendre la Chine et la Russie. Donc, c'est l'objectif, mais ce n'est plus un mythe. C'est créé, et ça, depuis vendredi dernier.
Par les autorités américaines. Christian, on se retrouve jeudi prochain. Rendez-vous.
Absolument.
Toujours un plaisir. On termine notre émission comme ça. Patrick Lagacé s'amène. À demain.